Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment, 6 heures?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre fidélité. Nous sommes le mercredi 15 juin 2016, un autre jour est possible, votre réveil culturel, jusqu'aux premières informations de la journée. Avec au programme notre série consacrée au Shadok, en compagnie de l'universitaire Sébastien Denis, auteur d'un ouvrage qui vient d'être édité par Lina, Les Shadok, histoire, esthétique et pataphysique. Aujourd'hui, on va parler de la musique dans la série des Shadok. Et puis en deuxième partie, comme tous les mercredis, cinéma. Et aujourd'hui, on parlera de Howard Hawks avec une spécialiste de ce grand metteur en scène américain, Suzanne Liandra Gigg.
C'était il y a très, très, très longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. À droite du ciel, il y avait la planète Jibi. Elle était complètement plate et elle penchait soit d'un côté, soit de l'autre. À gauche du ciel, il y avait la planète Shadok.
Bonjour Sébastien Denis.
Bonjour.
Alors aujourd'hui on va parler de la musique des Shadok. C'est tout un monde. Hein. Alors avec cette fois-ci avec des références qui doivent parler, y compris à ceux qui n'ont pas vu la série qui a été diffusée entre 1968 et 1973 pour parler des trois premières saisons, puisque la quatrième saison, celle de janvier 2000, on le sait, c'était beaucoup plus un hommage à une série culte plutôt qu'une suite. La musique.
Alors c'est de la musique concrète. C'est donc un. En fait, c'est la musique concrète, c'est quoi? Peut-être, c'est bien d'en parler un petit peu d'abord pour ceux qui éventuellement connaissent pas ou mal l'histoire de la musique. C'est, je suis d'ailleurs pas spécialiste de ça, hein, mais c'est un courant musical qui a été inventé par Pierre Schaeffer. Et Pierre Schaeffer est la personne qui est responsable de la création des Shadok. Donc évidemment, c'est tout à fait important d'en parler. La musique concrète, c'est quoi? C'est faire de la musique à partir de sons enregistrés, hein, retraités, classés, bidouillés, sur bande, et non pas à partir d'instruments traditionnels, d'instruments acoustiques. L'idée, c'est de travailler à partir de ces bandes-là, de remixer, bref, de faire un vrai travail de création, hein, de sculpture du son quasiment. Et donc, les sons qu'on est en train d'entendre là, ce sont effectivement des sons typiques de la musique concrète. Et donc, le musicien qui s'appelle Robert Cohen-Solal, le musicien des Shadok, hein, celui qui est responsable de la totalité des musiques des Shadok, quasiment, hein, sauf un bref extrait, est issu de cette école-là. Hein, c'est quelqu'un qui travaillait à l'intérieur du GRM, hein, du groupe de recherche musicale, qui est un des groupes qui a été créé par Pierre Schaeffer pour justement développer la musique concrète. Donc voilà, on entend des bruits par exemple de ressorts, de caoutchouc, ce sont des sons retraités. Et donc bien sûr, il faut voir que la présence de la musique concrète, un petit peu comme une obligation finalement, puisque les films qui étaient faits au sein du service de la recherche de l'ORTF, dirigé par Pierre Schaeffer, devaient d'une manière ou d'une autre être des films de recherche. hein, c'est-à-dire des films où on travaillait l'image, donc il y avait un groupe de recherche image, et il y avait un groupe de recherche musicale, et Schaeffer invitait des créateurs, et souvent des créateurs dans le domaine de l'animation, comme Piotr Kammler, par exemple, ou Robert Lapoujade, hein, qui sont de très grands artistes, les invitait à travailler en collaboration avec des musiciens, comme Bernard Parmigiani, par exemple, ou François Bayle, et qui, du coup, ou Robert Coenzola, justement, et donc qui créaient des œuvres uniques, à la fois visuellement, mais aussi dans l'univers sonore qu'elles proposaient. Travaillait à l'époque, c'était sur pellicule, hein, bien sûr, donc c'était de la pellicule 35 mm, et il faisait tout un travail, hein, qu'il faisait d'ailleurs auparavant, quand il avait fait des films déjà avec Piotr Kammler, par exemple, en mesurant le nombre d'images, pour savoir justement combien de temps devaient durer les effets sonores. Donc il y avait un double travail, puisque c'était un peu votre question, c'est-à-dire un travail en amont, hein, de création musicale et donc de création d'une bande musicale qui, ça, se faisait en amont. Et il y avait un travail aussi de bruitage. Donc, à l'époque, on parlait pas de bruitage puisque la bande, c'était la bande son entière qui était faite sur le principe de la musique concrète, mais avec quand même une vraie spécificité, si vous voulez, par rapport à d'autres productions du GRM en particulier, c'est que Pierre Schaeffer a accepté une concession extrêmement importante, puisque Robert Coenzola a souvent enregistré à partir d'instruments. Et donc là, en cassant complètement la logique qui était celle de la musique concrète, si vous voulez, mais radicalement. Donc, et je pense que si Pierre Schaeffer a accepté cette concession, c'est parce qu'il savait que ça marcherait. Et c'est quelqu'un qui avait confiance, qui a soutenu ce projet-là. Et du coup, effectivement, il y a plein de passages où il y a des violons, où il y a la musique classique en particulier, puisque les gibis font de la musique classique, hein, ces petits personnages ennemis des Shadok. Enfin, ennemis, plus ou moins. Et eux, ils font de la musique classique. Hein, et donc, par exemple, bah, c'est quelque chose qui ne s'était pas fait, en fait, au GRM, hein, au groupe de recherche musicale.
Ils s'amusaient comme des fous pendant tout le jour et le soir. Ils regardaient les Shadok à la télévision, faisaient des feux d'artifice et lançaient des confettis. Mais les confettis, qui, comme chacun sait, ont des atomes beaucoup plus légers que les atomes de Kosmogol, étaient aussitôt aspirés par la pompe Shadok. Les gibis trouvaient ça amusant, et ils en relançaient, et ils en relançaient, et plus les gibis s'amusaient, plus les Shadok pompaient, et plus les confettis n'arrêtaient pas d'arriver.
Je pense qu'il y a une raison pour laquelle Schaeffer a accepté, c'est que ça marchait. Et il y a une raison aussi pour laquelle Robert Coenzola l'a fait, c'est que tout simplement, Jacques Rouxel, le créateur des Shadok, ne supportait pas la musique concrète. C'est-à-dire comme on l'a vu dans les...
Mais alors c'était quoi sa marge de manœuvre? Parce que vous nous disiez tout à l'heure, Sébastien Denis, que c'était un peu dans le cahier des charges de cette production télé que de faire dans l'expérimentation, y compris pour la musique, d'où la musique concrète. Mais que pouvait faire un auteur comme Jacques Rouxel dans le cadre d'une émission produite pour la télévision et qui doit répondre à un cahier des charges, c'est-à-dire l'innovation?
Alors justement, vu que ça répondait à l'innovation, c'est vrai que je pense que c'est pour ça que Pierre Schaeffer a accepté de faire une entorse à son principe de musique concrète. Le but était pour lui de laisser les réalisateurs, qu'il appelait des chercheurs, hein, tout le monde était chercheur en fait, de les laisser chercher. Et donc si Rouxel, puisqu'il croyait dans cette idée, avec André Voisin, directeur des programmes, ils ont soutenu ce concept d'émission, eh bien il fallait laisser libre les chercheurs de faire leur travail. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il a laissé cette production se faire sans beaucoup de musique concrète. Bon, maintenant il y en a quand même, et en particulier il y a beaucoup, quand on écoute les épisodes des Shadok, il y a énormément de bruitages qui sont faits en musique concrète, donc qui sont des distorsions de son, voilà, de caoutchouc sur du verre, enfin un vrai travail de sculpture sonore, hein, qui permettait du coup de donner cette, par exemple le monde de l'univers aussi, le son de l'univers qu'on entend au début et pendant plusieurs moments dans les Shadok, tout ça ce sont des créations ex nihilo. Hein, le but c'est vraiment de faire une musique d'atelier, si vous voulez. Et les Shadok de leur côté étaient visuellement aussi un travail de recherche parce que c'était fait sur l'animographe. Et du coup, ça allait dans le sens de l'innovation puisque ça ne s'était jamais fait. C'était quelque chose de radicalement nouveau. Et donc, je pense que c'est ça qui tenait, si vous voulez, Pierre Schaeffer, qui fait qu'il a accepté qu'il y ait une saison, puis deux, puis trois, hein, au sein du service de la recherche. C'était vraiment une entreprise de recherche. À la fin, sur la troisième saison, ça a moins marché. Les relations se sont dégradées.
Pourquoi ?
Parce que, justement, pour Schaeffer, à un moment donné, quand ça devenait usuel, quand ça tournait, fallait le casser. Alors ça, il a appliqué en fait une logique Shadock au service de la recherche. Et donc, au bout d'un moment, et donc c'est ce qu'il a fait au sein du service de la recherche, il l'a reformaté. C'est-à-dire tous les ans, il changeait l'organigramme du service de la recherche pour que les gens ne soient jamais installés dans un confort. Et finalement, c'est ce qui s'est... Donc il fallait tout le temps être à la recherche d'un nouveau service de la recherche.
Vous vous rendez compte que ce que vous nous dites, Sébastien Denis, c'est exactement le contraire de ce que fait la télé d'aujourd'hui, hein ?
Ah oui, très exactement. Et bon, je suis le premier à regretter. Je le regrette à la fin du livre, d'ailleurs. Et je le dis ici, effectivement, il nous faudrait un service de la recherche à nouveau. L'audiovisuel public, c'est quand même dans le cahier des charges de l'audiovisuel public que aussi de faire de la recherche, d'apprendre des choses. Il y a une dimension d'apprentissage aussi.
Il reste France Culture de 23h à minuit.
Voilà,
il
reste la radio.
Ouais.
Il reste la radio sur des, en plus effectivement relativement tard, hein, l'atelier de création radiophonique par exemple, effectivement. Tout ça, ce sont des restes finalement de cette logique schaefferienne, et je pense qu'elle est de plus en plus nécessaire. Il faudrait y revenir au lieu, au contraire, de sacrifier les budgets. On a besoin de ça. Le succès des Shadock, mais aussi d'autres séries du service de la recherche, montrent que c'était possible. Les Conteurs, par exemple, une série d'André Voisin, une magnifique série vraiment sur le conte, l'oralité en France, a eu beaucoup de succès. Donc on pouvait très bien avoir du succès. C'était le but de Schaeffer, que d'avoir le plus de succès possible, finalement.
Alors justement, question maintenant. Est-ce que cette recherche, elle n'a pas muté, elle n'a pas quitté les ondes des radios publiques ou même privé pour aller trouver un terrain plus propice à cette liberté créatrice qu'est la toile, parce que quand on remet les Shadock dans leur contexte, il y avait cet espace incroyable qu'ils avaient, c'est-à-dire pas de concurrence. Hein, il y avait une chaîne, la deuxième chaîne pointée à peine son nez, donc ils pouvaient se permettre en quelque sorte de proposer une série comme les Shadock.
Alors, ils pouvaient se le permettre, mais il faut avoir en tête que c'était un vrai, ça a été un coup en termes de un coup COUP. Hein, ils voulaient faire quelque chose qui marque les esprits au service de la recherche, qui soit différent aussi de ce que faisait le service de la recherche traditionnellement, pour justement aller vers un nouveau public. Mais il faut voir quand même que c'était une prise de risque très importante, et que justement, on en parlera bientôt, cette question, le public s'est rebellé contre ça, parce que justement c'était tellement révolutionnaire par rapport à ce que proposait l'audiovisuel public d'alors, que ça créait une espèce de
oui, ça fait chiasme,
grincer,
bien
voilà,
sûr, hein, mais sauf que ce public-là ne pouvait pas aller voir ailleurs.
Oui, c'est un public captif.
Voilà.
Mais en même temps, il faut avoir en tête quand même que c'est un programme qui a failli être déprogrammé, qui a de nombreuses reprises, parce que Pierre Schaeffer n'était pas en odeur de santé, globalement, au sein de l'ORTF, et que du coup, ça paraissait comme une énième lubie de Pierre Schaeffer, et que vu que les avis étaient très partagés dans le public, la direction générale de l'ORTF a voulu à de multiples reprises arrêter cette série. Donc si elle est née, c'est grâce au contraire à un directeur qui, avant mai 68, qui s'appelle Émile Biasini, a cru dans ce projet parce qu'il était lui-même fan de Lewis Carroll. Et c'est pour ça que ça s'est créé, tout simplement. Ça, on voit à quoi ça tient. Et par contre, après, il se trouve que son successeur a été beaucoup plus conservateur et a voulu arrêter cette série. Et si elle a continué, cette série, malgré la musique concrète, malgré les protestations, c'est, paraît-il, parce que la femme du général de Gaulle trouvait que c'était une émission très drôle, que ses petits-enfants se divertissaient en la regardant, et que donc il fallait la garder.
Merci pour cette anecdote, Sébastien Denis. Pour terminer cette émission autour de la musique des Shadock, est-ce qu'aujourd'hui on joue cette musique quelque part, on la récupère, ou est-ce qu'elle reste intimement liée à la série et à l'époque ?
Alors oui, c'est une musique qui a été complètement liée à l'époque. À l'époque, il y a eu un concert à Radio France, puisque Pierre Schaeffer adorait en fait les Shadocks et du coup il a fait faire un concert. Donc Robert Cohen-Sola était très étonné puisqu'il faisait tout autre chose que ce que le groupe de recherche musicale faisait traditionnellement. Donc elle a été écoutée à l'époque. Bon, il y a eu quelques disques qui sont sortis, mais pas uniquement de musique, hein, avec la voix de Claude Pieplu dont on n'a pas encore vraiment parlé, mais qui est une voix
la voix des
Shadocks, très importante. Mais les disques ne sont pas sortis en l'état. Donc là, ce qui se passe pour l'exposition de Seth me semble très intéressant. C'est l'idée de pouvoir écouter la bande son des Shadocks comme une musique au sens plein. Ça me semble très juste et très intéressant.
L'expo consacrée aux Shadocks ouvre ce week-end, hein, vernissage vendredi, ouverture au public dès samedi, et elle va durer tout l'été, c'est à 7, au Musée des Arts Modestes. Merci beaucoup Sébastien Denis de nous avoir rappelé ce rendez-vous important. On se retrouve demain, et demain on parlera de la France des Shadocks. À demain Sébastien Denis.
À demain.
La fusée Jibi comportait pas mal d'étages. D'abord un premier étage propulseur contenant le combustible Jibi d'une puissance infinie, le Cosmogol 999. Aux étages supérieurs, on trouvait une piscine chauffée, entièrement aménagée, une salle de jeu avec balançoire, patins à roulettes, jeux de domino et autres appareillages hautement perfectionnés, indispensables pour survivre sur l'écorce terrestre. Un étage carnaval avec manège, montagne russe et autres instruments de navigation indispensables pour la même raison. Un étage campagne avec des fleurs, des arbres, des petits ruisseaux et des jardins potagers où les gibis cultivaient des légumes nécessaires pour subvenir à leurs besoins techniques. Moteurs électriques et ioniques, microphones en grappe, gyroscopes ou tubes de télévision. Et dans les vergers, ils poussaient des antennes radars, des goniomètres ou des radiotélescopes.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Cinéma comme tous les mercredis, et pourquoi parler que des nouveaux films quand on a la chance de vivre dans un pays où on peut voir d'anciens films, des vrais classiques et qui plus est, des copies remasterisées, bien comme il faut. Donc bref, aujourd'hui je vous parle d'un film que je ne connaissais pas, d'Howard Hawks, « Aller coucher ailleurs ». Drôle de titre, mais c'est un très très bon film avec Cary Grant et Anne Sheridan. Et pour nous en parler, Suzanne Liandra-Guigues, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue ce matin, je vous présente, vous êtes prof en études cinématographiques à Paris 8 et vous avez travaillé sur quelques grands films d'Howard Hawks. Est-ce qu'on peut dire que ce film-là, qui était une commande hein, de Daryl Zanuck pour Howard Hawks, est-ce qu'on peut dire qu'il porte la patte d'Howard Hawks?
Alors, il est évident qu'on est en 1949, ce n'est pas le film le plus réputé, ou le plus connu, ou le plus apprécié peut-être de Hawks, mais pour ma part, je le trouve suffisamment compliqué pour vouloir vous en parler en le valorisant.
Alors, est-ce qu'on peut raconter juste l'histoire?
Oui, c'est un film qui est extrait d'un récit autobiographique d'un officier belge qui s'appelle Henri Rochard, et qui fait partie des forces, on va dire, alliées d'occupation de l'Allemagne après la victoire et l'armistice du 8 mai 1945. Un ensemble de pays alliés, en effet, occupent le terrain. Et il y a immédiatement une facétie que va exploiter Hawks, parce que c'est un homme qui aime les situations qui, justement, se retournent. C'est qu'on a beau être en période d'occupation, il y a crise du logement. Hein, et que, entre autres, les personnages vont avoir un mal de chien à coucher quelque part, trouver un lit, une chambre, etc. C'est donc un prétexte à très belle comédie, bien sûr, loufoque, comme on dit, pour parfois traduire l'expression de screwball. Mais n'oublions pas qu'elle veut dire que c'est tordu, tout de même, ouais. La screwball comédie.
Et il y a bien sûr une romance, on est à Hollywood.
On est à Hollywood, c'est une romance qui n'est pas si évidente, puisque Hawks prend plaisir à la contrarier. La première des contrariétés, elle passe par une parodie de ses propres goûts. On sait qu'il s'est illustré dans des films de guerre. Et voilà un film de guerre un peu saboté, si j'ose dire, puisque passé l'arrivée de l'officier qu'interprète Cary Grant, qui devient du coup un officier français, et qui rencontre son homologue avec lequel il doit conduire une mission, qui va se révéler être Anne Sheridan, c'est pas celle qui l'attend, il pensait faire équipe avec un garçon,
au contraire. Et c'est une femme.
Et c'est une femme, Anne Sheridan, qui est officier.
Alors, pour aller très vite, ils vont tomber amoureux. Il voudra bien l'épouser et rentrer aux États-Unis, sauf qu'il y a une loi américaine qui interdit aux fiancés de GI de regagner les États-Unis sans passer par tout un tunnel de paperasserie administrative à régler. C'est bien ça.
C'est bien ça, et c'est même une sorte de leitmotiv, puisque Cary Grant va être amené, dans la situation qui se complique de plus en plus au fur et à mesure de l'avancée du film, à répéter comme une sorte de slogan ce fameux article 271 du Congrès, etc., qui complique terriblement leurs histoires amoureuses.
Voilà, ce qui est drôle, c'est que cette loi concernait les fiancés avec un E de guerre, et là, c'est l'inverse qui se produit.
C'est ça, c'est le terme bride qui apparaît dans le titre original, hein, qui est quand même un drôle de titre. J'étais male war bride.
Ouais, titre original.
Donc bride qui veut dire soit fiancée, soit jeune épousée. Mmh. Hein, c'est pas tout à fait wife, c'est pas la même chose. Et donc, qui est dans ce moment un peu transitoire, justement, et qui concerne justement une disposition adoptée par le Congrès qui ne fait que compliquer la vie. Mais c'est là qu'est la parodie du film de guerre, parce que justement, Hawks, qui aimait tant montrer les prouesses des hommes en aviation, sur le terrain de la guerre, se régale enfin à nous faire partager une satire désopilante de l'administration militaire en temps de paix. C'est une façon de dire qu'en temps de paix, ça vaut pas grand-chose, tout ça, alors que quand on est au fait de la gloire, comme il aime le célébrer, on voit des hommes empoigner autrement les commandes de l'histoire.
Henry, will you repeat after me? I, Henry. Take thee, Catherine. To be my wedded wife.
Selon le saint commandement de Dieu.
Selon le saint commandement de Dieu.
Jusqu'à ce que l'amour nous sépare.
Jusqu'à ce que l'amour nous sépare.
Et sur cela. Je te donne ma foi.
Suzanne Liandraghi, je peux dire qui va jusqu'au bout de sa logique, puisque grâce à ce scénario bien ficelé, le militaire Cary Grant va être obligé de se travestir en femme, de se déguiser en femme pour pouvoir rencontrer son amoureuse. Et là, bien sûr, il joue avec le masculin féminin, Howard Hawks, et là on retrouve son thème de prédilection.
Oui, alors c'est un thème d'ailleurs qui se complique du fait qu'il y a peut-être avec connivence de la part de Cary Grant, hein, un rapport à l'homosexualité de Cary Grant, qui bien sûr est absolument dissimulée dans le Hollywood de 1940, ce que vous voudrez. Hein. C'est quand même extrêmement difficile de faire valoir une sexualité autre que celle qui est reconnue, je ne sais pas comment il faut dire, légalement, officiellement. Donc il y a peut-être connivence de la part de Cary Grant, parce que ce n'est pas la première fois que Hawks lui fait dire ou lui fait entendre, c'est comme on préfère. Par exemple, dans Seuls les anges ont des ailes, Gene Arthur lui dit « utilise le mot de queer ». Mais pas forcément pour dire, comme on l'entend aujourd'hui, qu'il est homosexuel, ce Cary Grant, mais que le personnage est plutôt curieux, vous êtes un drôle de type, voilà un peu ce qu'elle veut lui dire. Mais bon, elle emploie quand même cet argot qui désigne, comme nous le savons désormais très bien, l'homosexualité, de même que quand dans L'impossible Monsieur Bébé, il a été amené à se déguiser, c'est pas la première fois qu'il se déguisera en effet au cinéma, et qu'il a endossé le peignoir de Catherine Hepburn, une espèce de peignoir rose à froufrou, il s'élance dans les airs en riant et en disant « je me sens devenir gay ». Et cette fois-ci, il dit clairement que c'est le terme que l'argot utilise, en effet, pour désigner l'homosexualité. Il n'en demeure pas moins que c'est peut-être pas ça le centre vraiment de la réflexion du film, mais en revanche, ce qui est peut-être plus intéressant, je crois que ce film est vraiment une plaque tournante dans le travail de Hawks, parce qu'il y retourne nombre de directions, d'axes, de... pourrait même dire de centre d'intérêt qu'il a jusqu'à présent mis en valeur. Et par exemple, il s'agit peut-être d'une parodie tout à fait personnelle de son idéal féminin. On sait que Hawks aime les femmes grandes, belles, sophistiquées, mais sportives, aimant notamment, comme les hommes, la chasse, le tir, l'automobile. Ici, Anne Sheridan est celle qui peut conduire la moto parce qu'elle a un permis de conduire de la moto, ce que ne...
Et la tenue militaire lui va si bien.
Et en plus, elle est très très bien dans ce rôle, un peu masculin en effet, mais cependant terriblement féminin dès que son regard croise celui de Cary Grant ou son sourire rencontre celui de Cary Grant. On a toujours dit qu'il y avait des femmes qui se ressemblaient chez Hawks, et c'est vrai, il a créé quand même Lorraine Bacall. Quand même pas un moindre mérite. Mmh. Et on sait comment ça s'est passé. Après l'avoir remarqué sur la couverture de Harper's Bazaar, il l'a convoqué et il l'a tout de suite mise au travail, c'est-à-dire lui a demandé de travailler sa voix de façon à ce qu'elle adopte un timbre très grave.
Alors que pour ce film, si j'ai bien compris, Suzanne Liandra-Guigg, Zanuck, lui, pensait à Ava Gardner. Et Howard Hawks a dit non, pas question, elle est trop belle, elle risque d'étouffer le personnage. Ouais.
Oui, parce qu'aussi, reconnaissons qu'Ava Gardner est sublime, on ne peut pas dire autre chose, mais au fond, sa séduction est tout à fait évidente. C'est une séduction terriblement féminine. Alors que Hawks cherche des personnages féminins, et donc des actrices, Catherine Hepburn, Lorraine Bacall, Rosalind Russell, dans La Dame du Vendredi, et tant d'autres, qui ont justement cette ambiguïté qu'il aime, hein, où la femme peut être tout à fait rivale de l'homme, ou bien, comme il le dit dans un entretien, elle peut partager un territoire avec l'homme. C'est une belle formule qui oblige à ce qu'ils se disputent ce territoire. Ils y sont en compétition. C'est pas un égalitarisme niais, vous voyez, c'est un égalitarisme de combat qui suppose en effet qu'on soit toujours exigeant l'un et l'autre. Et c'est bien ce à quoi on assiste dans la plupart des fameux dialogues. Vous savez, les dialogues de Hawks sont célèbres, il y travaillait beaucoup, ses scénarios étaient toujours au cordeau. Et parmi les caractéristiques du dialogue homme-femme, il y a la vivacité, l'agressivité et le chevauchement. N'oublions pas des propos, chevauchement, c'est une dispute, hein, c'est un combat, c'est une compétition qui certes est orale, passe par le lexique bien utilisé, la formule qui fait mouche, etc. Mais c'est presque en effet un terrain à partager, et ça intéresse bigrement Hawks. Et du coup, voilà qu'on a affaire à une comédie.
Ça reste vraiment une comédie hollywoodienne. Ouais.
On rit comme ce n'est pas possible, elle est désopilante, on dit loufoque parfois en français pour traduire ce genre de comédie. On s'amuse véritablement, tellement les situations se succèdent à un rythme qui est celui de Hawks, mais où transparaît sans cesse une réflexion qui là, pour le coup, me semble être une parodie de ses propres inclinations, puisque finalement il va demander à un homme ô combien sophistiqué, qu'est Cary Grant, l'élégance même, sportif, un très beau corps, qui va emprunter un costume féminin, et ça n'est pas simple du tout à penser, même si c'est destiné à nous faire rire, parce que c'est quand même une proposition qui est faite là, et qui est parmi les plus suggestives auxquelles se soit livré, et peut-être Hawks dans son cinéma, qui n'a pas manqué de renverser les idées établies.
Now remember, you don't know me.
All right, I don't know you.
You can't speak to me.
Okay, I can't speak to you.
I'm transparent.
Allez voir ce film qui ressort en version restaurée au cinéma aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci.
C'était Un autre jour est possible, préparé avec Pascaline Bonnet et Anaïs Isbert, réalisé ce matin par Gisèle David, avec à la technique Manu Couturier. Émission que vous pouvez bien sûr réécouter en passant par le site de France Culture, franceculture.fr. Vous trouverez tout à votre disposition, l'écoute en ligne et le podcast que vous pouvez faire partager, bien entendu. Passez une excellente matinée. Allez, c'est l'heure du café et à demain.